pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Bonjour à tous, bienvenue dans le texte. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Marie-Josée Monzin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Marie-Josée Monzin, vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez également publié de très nombreux ouvrages sur la question des images, le statut des images, dont vous êtes la spécialiste incontestée aujourd'hui dans le champ de la philosophie, on pourrait le dire. Alors, dans cet ouvrage, vous poursuivez d'une certaine manière votre réflexion sur les images, mais avec un angle spécifique nouveau, celui du colonialisme, ou pour le dire plus exactement encore, de la colonialité, c'est-à-dire de la matrice qui régit la domination coloniale, dépassant ainsi très largement le cadre des anciens empires, pour s'étendre à toutes les strates de l'existence, du stade collectif, donc proprement politique, au stade le plus intime. La colonialité, c'est donc l'extension des stratégies de domination à l'ensemble des territoires réels ou imaginaires des peuples colonisés, mais aussi, et vous y tenez, des peuples colonisateurs. Pour pérenniser la domination, il faut non pas seulement conquérir le pouvoir, mais également conquérir les âmes. Et donc, face à ce slogan programmatique de la colonisation, vous invitez à rejoindre l'ambition inverse, donc qui consiste à décoloniser les âmes, décoloniser l'imaginaire, en résistant donc par différents gestes créatifs qui passent donc par la littérature, le cinéma, le théâtre, la poésie, etc. Bref, tout ce qui permet de débarrasser le regard de toute emprise hégémonique. Cette ambition, elle prend forme en vous sous une forme plus précise à l'occasion d'une lecture fondatrice que vous faites de Franz Kafka et de son récit intitulé « La colonie pénitentiaire » qui va ouvrir en vous le chemin d'une interrogation, disons, déambulatoire, mais qui ne manque pas de rigueur sur les différents rouages de cette grande machinerie qui est la domination coloniale, mais aussi impérialiste, capitaliste, et en même temps les différentes stratégies de résistance que nous pouvons lui opposer, et dont vous résumez la mission politique sous la forme de puissance émancipatrice de l'œuvre fictionnelle. Alors, j'ai le sentiment d'avoir oublié de dire que vous venez de publier cet ouvrage, parce que je vous ai présenté, mais donc je vous reçois à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, donc, qui s'intitule « K comme colonie, Kafka et la décolonisation de l'imaginaire » aux éditions de La Fabrique. Alors, pour lancer notre discussion, je vous propose de commencer par le commencement, à savoir par une scène de vie que vous décrivez en ouverture de votre livre, une scène de vie qui remonte à votre enfance, donc vécue en Algérie, en pleine guerre d'indépendance. Oui. Il s'agit du moment où vous fuguez et où vous vous retrouvez un peu perdu, on va dire, dans les ruelles de la Casbah d'Alger, et où vous faites la rencontre de cette altérité, d'une altérité qui est l'altérité indigène, les Arabes, dont on vous a formellement interdit la fréquentation, et que vous présentez comme étant un moment fondateur dans la constitution de votre conscience politique.
Oui, c'est vrai. C'est pas qu'on m'interdisait ces rencontres, puisque le régime colonial faisait que des domestiques venant de ces quartiers venaient faire le ménage ou la cuisine. Ou
oui, mais c'est des modalités de rencontre.
Étaient livrées, oui, oui. Donc, il y avait au contraire la présence de cette population, mais sous la forme d'une domination et d'une ségrégation. C'est vrai que ces fugues de toute jeunesse, hein, la première, j'avais quand même pas 4 ans. Oui, ça commence tôt.
Oui, c'est très, très jeune, effectivement, à 4 ans.
Oui, la première, j'avais 4 ans, me conduit dans des quartiers qui m'attirent. Pourquoi ? Où je me trouve par hasard ? Pourquoi ? À ce moment-là, ce serait bien difficile aujourd'hui de vous dire comment je m'y retrouve. En tous les cas, c'est là qu'on finit par me trouver. Et parce que, sans doute, j'avais plus ou moins repéré l'endroit où habitait quelqu'un qui travaillait à la maison. Bref, oui, donc là, je me trouve dans l'intimité d'une famille, et même dans les bras, puisque ça, c'est un souvenir qui reste, c'est-à-dire de femmes assises en rond, et moi, dans le giron de l'une d'elles, attendant de savoir d'où je venais, qui j'étais, enfin, voilà. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui comment on m'a retrouvée, mais sans doute une des personnes qui était là a fait en sorte de signaler qu'il y avait quand même une petite fille un peu perdue. Mais l'important pour moi a été de trouver tout d'un coup, au niveau du sol et d'un espace domestique, une chaleur, un accueil immédiat, sans question, une espèce de tendresse, donner à boire, donner un gâteau à manger, serrer dans les bras, empêcher de pleurer, des choses. Bon, il se trouve qu'effectivement, le milieu d'où je venais n'était pas tout à fait composé de cette forme-là. Et donc, j'étais bien. J'étais bien. Et le fait d'être quand même prise dans un réseau éducatif qui faisait de ce monde-là une description inquiétante, à fuir, ou en tous les cas, il faut s'en préserver, parce que c'est sale, parce que c'est inculte, parce que c'est pas bon, parce que qu'importe tout le vocabulaire que le racisme colonial peut emprunter pour protéger un enfant, soi-disant, d'une contagion, d'une contamination ou d'une proximité trop envahissante et menaçante. En fait, ce sont les adultes qui se protègent eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont peur. Moi, je n'avais pas peur. Donc, cette autre gestion de la confiance et de la peur, oui, m'a suffisamment marquée pour que lorsque j'ai lu plus tard, et que je me suis, même dans le projet de ce livre, j'ai voulu regarder de plus près toute la littérature concernant le régime colonial, et que j'ai rencontré, comme je le raconte dans le livre, l'œuvre d'Anne Stoller, qui s'est intéressée à la question de la chair, de l'intime, des femmes et des enfants, elle, dans les colonies hollandaises de l'Indonésie. Ça a résonné immédiatement et je me suis dit, j'ai là, dans ma mémoire, quelque chose qui n'est pas que personnel, qui n'est pas qu'autobiographique, qui porte l'empreinte de l'histoire, d'une autre histoire.
Raison pour laquelle, sans doute aussi, vous soulignez que la décolonisation de l'imaginaire concerne non seulement les populations qui ont été colonisées et qui le sont aussi encore sous une autre manière, mais aussi, de façon plus impérative encore, vous dites, les peuples colonisateurs.
Tout à fait.
Pourquoi de façon plus impérative encore les peuples colonisateurs ?
Plus impérative, il est urgent de s'en rendre compte. C'est-à-dire que, loin de minorer ou de relativiser les combats que les peuples colonisés doivent encore mener aujourd'hui en termes de racialisation, d'exclusion, d'inhospitalité, puisqu'il concerne l'immigration. Donc, il y a entre l'impérialisme néolibéral et ce que j'appelle l'iconocratie, le capitalisme mercantile et la phobocratie, c'est-à-dire qui est le véritable nom de ce qu'on appelle aujourd'hui des démocraties, c'est l'empire de la peur. Donc, tout cela, je voulais le désigner, le nommer, le décrire nous ayant, nous, envahis, nous, les communautés européennes et fières de l'être, blanches, plutôt chrétiennes, en tous les cas en majorité, font mine d'ignorer, de ne pas reconnaître qu'ils sont totalement soumis, envahis, pénétrés, par des régimes de domination qui touchent l'intime. Mmh. On en a même je dirais, la preuve, les symptômes, hein, au sein de ce qu'on appelle la gauche, enfin de ce qui existait autrefois sous ce nom, et qui se déclare totalement antiraciste et avide de démocratie. Et dès que l'on pénètre des régimes, des lieux, des espaces, ou que l'on partage des temps de partage qui devraient être de partage culturel, de partage, la ségrégation a lieu complètement. Hein. Je m'en faisais encore hier soir la remarque en étant dans un magnifique vernissage d'art dans un très joli musée de Paris. Il y avait un monde fou, une bousculade. C'était vraiment la population blanche, voilà. C'était tous habillés plus ou moins en Yves Saint-Laurent.
Oui,
voilà, ils étaient très bien. Et il y avait...
Donc c'est un milieu que vous identifiez comme étant à gauche, enfin,
bien sûr, eux s'identifient de cultivé, ce moment-là. Oui, voilà. On sentait d'accord. Cultivé. Je connaissais quelques personnes là. Oui, c'est du monde qui se déclarera très volontiers en faveur d'une démocratisation croissante. C'est pas vrai, je veux dire, le partage des fondamentaux, c'est-à-dire des gestes, parce que pour moi, un vernissage, c'est un lieu d'art. Un lieu d'art, c'est un lieu où se déploient et se montrent des gestes qui ont pris la peine de s'inscrire dans la liberté, par la liberté, y compris la difficulté et le combat. Hein. Là, c'était une exposition sur Cézanne, et Dieu sait que Cézanne n'a pas connu l'opulence de ceux qui, hier soir, le considéraient avec bonheur. Donc, je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez, dans votre présentation, dit que je parlais de la fiction, c'est-à-dire du côté de l'art, et vous avez dit des œuvres d'art. Je dirais des gestes d'art, parce que tous les gestes d'art ne font pas des œuvres, au sens...
D'accord, donc c'est indépendamment du résultat qui...
Indépendamment de la reconnaissance institutionnelle de ce que le ministère de la Culture et le marché de l'art vont désigner sous ce nom noble et souvent mérité. Hein, mais parfois immérité.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'œuvre en elle-même en fait, qui détient quelque force.
C'est le geste, c'est l'adresse.
Émancipatrice, voilà. C'est le processus de création.
C'est le processus de création dont ce qu'on appelle l'œuvre est la trace, et la trace d'un geste qui s'adresse à tout autre, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, sa couleur, son histoire, ses convictions, voilà.
D'accord.
Et là, on sent, voilà, ce que maintenant on appelle les élites, et qui est un concept pour moi absolument irrecevable.
D'accord, donc c'est l'œuvre d'art qui est neutralisée, en fait, de sa puissance.
Elle est castrée.
De politique.
Elle perd son énergie. Germinative, génératrice,
alors on
turbulente.
On touche ici à l'une de vos thèses centrales, à la fois de votre œuvre en général, mais aussi qu'on retrouve aussi dans cet ouvrage, qui consiste à penser que donc l'imaginaire, que le champ de l'imaginaire est loin d'être secondaire en fait dans les rapports de force, dans le politique.
Il est décisif. Oui.
Voilà. Et voilà. Vous pensez même qu'il
est. Il est si décisif que les pouvoirs dominants et les institutions dominantes veulent avoir une emprise sur cette énergie-là. Le domaine des images, entre autres, de ce qu'on appelle les images, sont un domaine privilégié pour toute forme de domination, y compris le marché. Hein. C'est d'être maître des images. Ce que j'avais repéré déjà au moment de la, de ce qu'on appelle la crise de l'iconoclasme à Byzance, qui étaient mes études de jeunesse.
Hein. Oui.
C'est que le combat entre un iconophile et un iconoclaste, ce n'est pas de savoir qui est pour ou contre les images, c'est les images de qui seront les images dominantes. Mm-hmm. Les iconoclastes ne veulent pas la domination des images ecclésiastiques.
Alors, les iconoclasmes, juste pour qu'on puisse saisir...
Ceux qui ont détruit les images, voilà, n'étaient pas contre contre les images. Mm-hmm. Ils étaient contre les images du pouvoir ecclésiastique.
Du pouvoir, bien sûr.
Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir était détenu par l'Église. Voilà. Donc, on détruit les images du pouvoir en place, ou du pouvoir dominant ou du pouvoir qui est en train de se substituer au pouvoir impérial, on devient empereur, on va casser les images du patriarche et on va dire ben, c'est sans mes images à moi. Voilà.
Donc qui détient les images détient le pouvoir.
Exactement, c'est ce que l'Église a parfaitement compris. Mm-hmm. C'est la formule de l'Église. C'est si je suis maître des images, je suis maître du monde.
Et en même temps, ce type de thèse réactive presque, comment dire, automatiquement un vieux débat dont l'une des positions consisterait à prendre un peu de haut justement cette façon de donner un enjeu crucial à l'endroit des images, en considérant notamment que ce qu'il faudrait renverser, bouleverser, décoloniser, c'est avant tout les structures matérielles des rapports de force et que les images,
tout
les idées ne sont que
tout
la production de ces structures, en fait.
Vous avez tout à fait raison.
Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'objectif ?
C'est pas que je réponds à ça. Ouais. Je vais vous suivre.
D'accord.
En disant qu'effectivement, une révolution, c'est pour ça que j'ai pratiquement maintenant abandonné l'usage trop homonymique ou équivoque du mot « image », pour parler d'opérations imageantes, touchant les opérations de l'imaginaire, donc touchant aussi bien le poème, la musique, le vocabulaire et le cinéma. Bon, vous avez vu que je me tourne vers des arts qui sont tout à fait différents les uns des autres et donc qui n'ont pas tous une prééminence visuelle. La poésie, Kafka écrit. Il ne fait pas ni de peinture, ni il aurait aimé faire de la musique, mais enfin bref, il écrit. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il opère dans l'imaginaire, c'est-à-dire les opérations imageantes chez Kafka sont des opérations littéraires. Hein. Je ne suis que littérature, il l'écrit dans son, dans son journal. Et ça veut dire quoi ? Il n'y a que le geste d'écrire qui me délivre de la soumission à toute domination, qu'elle soit religieuse, étatique, administrative, judiciaire. On sait à quel point Kafka ne supportait pas le système bureaucratique par lequel le Reich s'imposait, militaire, bureaucratique, et voilà.
Looks to me as though your working hours are over, Joseph.
Come on.
After all, Joseph, I'm the nearest thing to a parent and a father that you can lay claim to in the world. Don't forget that.
Oh, I don't forget it, Uncle Max, believe me.
We've got to get some competent legal advice, Joseph. Things like this don't happen right out of the blue, and in a criminal case...
Please, Uncle Max, people are listening.
What's that up there?
The computer.
Oh. One of those electronic gimmicks?
Yes.
That can give you the answer to anything?
Yes.
Well,
what?
You want to know about your case, don't you? Ask the machine.
It wouldn't be allowed.
These things can always be arranged, can't they?
What would I ask? Uncle Max, I don't even know what I'm charged with.
Well, that's one question. The brain thing ought to be able to figure it out for you.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une révolution du regard est nécessairement une révolution politique. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est la révolution politique qui va transformer le regard ou c'est la transformation du regard qui va avoir des effets politiques? Et je dirais que j'annule un peu ce dilemme en disant que tout geste fictionnel, donc qui déplace le regard, hein, c'est pour ça que cette notion de déplacement dont j'ai trouvé un écho très remarquable dans le travail de Jacques Rancière, lorsqu'il parle toujours de la nécessité de faire un pas de côté. Kafka dit un saut, Rancière dit un pas de côté. Là, je parle de déplacement. Donc, ce fait de s'arracher, quelle que soit la nature du geste, est déjà en soi révolutionnaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne souscris pas à cette expression bien ambiguë ou à peine, qui s'appelle « décoloniser les arts ». Mais les arts n'ont jamais été colonisés. Ou c'est de l'art, et il est anticolonial, ou il est colonisé et c'est plus de l'art.
Oui, mais pourtant, vous voyez bien qu'il y a un champ, je veux dire le champ qui est constitué autour de l'art, quand bien même on pourrait justement leur reprocher d'être institutionnalisé et donc d'avoir perdu la mission mythologique qu'on pourrait accorder à l'art. C'est tout de même la manière dont l'art aujourd'hui est structuré et permet aussi les accès à la productivité, à la production culturelle.
Le marché de l'art, bien sûr.
Voilà. Donc il me semble que quand on dit décoloniser les arts, ça veut dire concrètement, justement, révolutionner ce monde de l'art. Et donc, ce que vous appelez de vos voeux, en vérité.
Tout à fait. C'est-à-dire que, pour moi, j'appelle artiste, potentiel ou réel, tout sujet d'un geste révolutionnaire. Et ce geste révolutionnaire, il peut commencer par l'accueil d'un émigré envers et contre toute domination et tout délit de solidarité, comme ce gouvernement a le culot de le nommer. Hein. C'est l'art de la rencontre, l'art de l'accueil. L'hospitalité est un art. Mmh. Donc, je donne au mot
donc
art.
C'est une acception vraiment très élargie.
Je donne au mot art, disons, une résonance qui ne se circonscrit pas au champ que le ministère de la Culture ou que le régime des beaux-arts traditionnellement défini comme tel. Voilà. Parce qu'il y a actuellement dans le monde dit de l'art et dans le marché de l'art, il y a vraiment de tout, y compris des objets, des choses, des œuvres qui sont quasiment des monuments de la colonisation, de la colonisation par le marché. Et il y a, en dehors du champ de ce marché, des gestes absolument magnifiques qui ne sont pas rétribués ni reconnus comme tels, mais qui, pour moi, méritent d'être reconnus du côté de l'art de rencontrer, de l'art de s'adresser. Donc, si vous voulez, ce que je reconnais et que je dois ajouter quand même à ce que je viens de dire, c'est que je ne donne pas du tout un caractère apaisé, irénique, pacifiant, en disant il n'y a que dans les ateliers d'artistes ou dans les lieux de concert, d'art et de poèmes que se passe la révolution. Je pense qu'elle se passe aussi dans la rue, que les artistes, nous avons besoin que les artistes nous accompagnent dans la rue pour nous réapproprier l'espace de la parole, de la contestation, de l'invention. Quand l'association Plein le dos a fait un livre qui photographie toutes les inventions verbales qui ont été inscrites sur le dos des gilets jaunes pour contester la domination actuelle, ce livre devient un objet partagé qui signale à quel point chacun, dans son corps, sur son dos, dans son gilet, donc dans sa chair, devient le porteur d'une invention à la fois verbale, iconographique, et qui fait partie d'un art de se réapproprier sa capacité d'acteur dans l'espace public. Donc, J'élargis.
Ça permet de quand même de réorganiser le réel.
Voilà,
aussi,
donc j'élargis l'art, mais je ne dis pas qu'il est sans bord et qu'on ne sait plus ce qui est là ou non d'art, etc. Mais qu'au contraire, il faut se battre avec les artistes et avec art, voilà, il faut créer des alliances et ne pas faire l'économie de la violence quand elle est nécessaire.
D'accord. Vous allez jusque-là.
Ah, tout à fait. Oui.
D'accord.
Oui, puisque si on me répond avec violence, je ne suis pas de la tradition qui tend la joue gauche.
Donc il y a un art aussi de la violence, on pourrait dire.
Absolument. Absolument.
Alors, je reprends parce que vous développez aussi un concept de l'art, enfin, en tout cas de l'espace de la création, on va dire, qui me semble, moi, vraiment un concept très riche et fécond pour analyser et interpréter les textes littéraires. Par exemple, je pense au concept de zone, vous appelez ça, la zone. Donc, c'est le fameux saut que Kafka fait pour entrer dans la zone. C'est cet espace de création. Je vous cite, parce que c'est la définition que vous donnez. « La zone est un espace dont l'indétermination offre le champ imaginaire de tous les possibles. Hors tout règlement de compte, la zone est un espace sans mur et sans frontières. » Donc, un espace sans mur et sans frontières. Et en même temps, c'est une zone. Donc, on sent comme une espèce de contradiction, parce qu'on se dit « Bon, alors, mais quel est cet espace ?» Cette zone, donc il y a des contours, mais sans les contours.
Voilà.
Comment on pourrait... est-ce que vous pourriez développer cette idée de zone ?
Alors, je vais la développer en vous citant un texte que j'ai lu récemment alors que j'avais fait ce livre, déjà. C'est ma fille qui me l'a fait lire et je suis aussi reconnaissante. C'est un texte de James Scott qui s'appelle Zomia. Et virgule, l'art de ne pas être gouverné. L'art de ne pas être gouverné. Voilà, ça me plaît. Mm-hmm. Parce qu'il y a le mot art, il y a l'absence de domination. Et Zomia, ben c'est un nom qui a été donné en Asie du Sud-Est par les habitants de cette zone, qui, en dehors des rizières et de l'administration rizicole, qui est liée d'ailleurs à la colonisation de l'Asie, etc., du Sud-Est, j'entends, dans les collines et les montagnes, ce sont des communautés de cueilleurs et agriculteurs par brûlis et par sans rizières, qui font tout pour être totalement irrépérable, incontrôlable, pas de fiscalité, pas d'administration, pas d'identité. Ils ne cessent de se nomadiser, mais sur cette zone qui s'appelle Zomia, et que Scott décrit magnifiquement dans ce gros livre que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est d'autant plus qu'il a employé l'art, enfin le mot art dans son titre, c'est-à-dire de reconnaître que la façon d'échapper à la domination est un art de vivre.
Est-ce qu'on pourrait essayer de définir ce que ce serait que le mot art, du coup, pour qu'on puisse saisir par rapport à...
Alors, vous savez, le mot art, ça vient du latin, ars, c'est un mot qui vient de la menuiserie. Vous le retrouvez dans le mot articulation, enfin, atelier, qui venait de Ars, et qui étaient les lieux de menuiserie, c'est-à-dire les endroits, les ateliers, l'art de jointoyer et de monter ensemble des pièces indépendantes, à la fois de les jointoyer et de laisser du jeu. Donc, une articulation, comme vous le voyez, celle de vos genoux, de vos coudes ou de vos épaules, c'est vraiment ce qu'on appelle des articulations. Ce sont des lieux de d'ajustement de pièces hétérogènes qui, séparément, empêcheraient toute fonction et toute organisation, tout mouvement, donc dont le mouvement nécessite forcément le jointoiement, mais dont le mouvement nécessite en même temps le mouvement. Hein. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du jeu. Alors, pour moi, c'est cela, l'art. C'est à la fois la façon de composer, d'ajuster, ça s'appelle au cinéma le montage, etc. De mettre ensemble de l'hétérogène, ça peut être des personnes, les mettre ensemble, mais de laisser entre elles à la fois juste ce qu'il faut d'ajustement pour que du mouvement commun et de la vie ensemble soit possible. S'il n'y a pas de jeu, c'est la paralysie. Donc tout est collé, on ne fait plus qu'un, et donc dès qu'arrive le moindre incident, ben, ça se casse et plus rien ne marche. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un ajointement, un ajustement, et le mot art vient exactement de cette étymologie-là. De quelle façon on va composer un ensemble, vivre ensemble, en laissant suffisamment de proximité pour que le voisinage permette le fonctionnement de l'ensemble, et que, en même temps, de façon microscopique ou macroscopique, ou de façon des engrenages, qu'importe, toutes les métaphores sont possibles pour que ça bouge, pour que ça se mette en mouvement et que une histoire et un mouvement et une vie aient lieu. Voilà. La vie demande ça. Donc c'est vrai qu'il y a des expressions dont qu'on n'interroge plus, comme art de vivre. Voilà, ça devient des expressions utilisées par des décorateurs ou par habitat, en fait, je veux dire, qu'importe, par l'industrie. Mais non, l'art de vivre ensemble est un art. Rencontrer est un art. Aimer est un art. Si l'amour n'est plus un art, c'est-à-dire s'il n'y a pas à la fois un ajustement des pièces, mais un jeu qui continue, vous avez de la fusion ou vous avez de l'éclatement. Donc, pour que la notion du être ensemble fonctionne de façon vivante et mouvante et transformatrice, voilà, il faut tout ça. C'est ça que j'appelle l'art. Hein. Et donc, ce que Kafka, on n'en a pas parlé, mais oui, Kafka aborde, c'est avec un génie à la fois désespéré, mais plein d'énergie joyeuse, c'est cette histoire-là.
Oui, alors effectivement, votre ouvrage est aussi et surtout un hommage à Kafka et à son génie créateur, puisque Kafka est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à décrire avec autant de précision et d'acuité le système... l'appareil administratif, oui, comme un système d'exploitation sous la forme d'une grande machine.
La dimension systémique, oui.
Oui, la dimension systématique, voilà. Et l'image donc, qu'il emploie, c'est cette machine. Et ce qui m'a, du coup, j'ai trouvé ça intéressant que vous développiez pour comprendre ce qu'est l'art, cette question des engrenages, de la fonctionnalité, puisque Kafka reprend cette imagerie donc de la machine coloniale. De la machine cannibale, même, je dirais.
La machine cannibale, où tout est parfaitement...
bien huilé, voilà, où les ruages sont bien huilés.
Ah oui, là, c'est vraiment... Ouais.
Et en fait, ce qui est intéressant, et que vous montrez bien, c'est qu'on a là une idée de la domination qui est celle de la rationalité pure, c'est-à-dire que c'est une force rationnelle qui, poussé à son extrême, se retourne en son contraire, c'est-à-dire un système complètement insensé, que plus rien ne peut arrêter.
C'est ça. Il y a une perpétuité, c'est une machine perpétuelle, même si dans la nouvelle de Kafka, elle finit par s'effondrer, tomber en morceaux. Mmh. Mais tout le monde tombe en morceaux, parce que je veux dire, la machine elle-même explose, et on sait qu'elle va... Kafka nous fait bien comprendre que tout est dans une perpétuité, c'est-à-dire que elle a explosé, elle va marcher encore, on va en faire une nouvelle, ouais. Et de toutes les façons, celui qui a été condamné est sauvé, et celui qui est condamné est mort. Et puis tout d'un coup, il invente une nouvelle fin, celui qui est mort ressuscite.
Mmh. Donc il y a et un cycle ensuite, comme ça.
Et puis ensuite, il va voir le commandant est mort, mais il y a écrit une épitaphe où il y a écrit « il va ressusciter ». Donc Kafka montre cette espèce de temporalité torsionnaire, perpétuelle, d'un mouvement perpétuel de, à la fois de destruction et d'autodestruction, mais qui s'engendre elle-même et qui va se répéter.
Donc, c'est un espace sans possibilité d'issue, c'est-à-dire sans dehors.
Dehors.
C'est une île.
Voilà.
C'est une île, mais dont on ne peut pas.
Il n'y a pas de dehors. Et c'est pour ça que je signale que Kafka avait appelé au départ la nouvelle dans In der Strafkolonie, dans la colonie pénitentiaire. Et puis, il a supprimé le dans, la colonie pénitentiaire. Et j'en ai conclu. Il n'y a donc pas de dehors.
C'est vraiment l'image de la
totalité
totalitaire.
Tant qu'on dit qu'on est dedans, c'est qu'on peut ne pas être dedans. Ouais. Il enlève le dedans et hop. C'est-à-dire qu'il y a, une planétarisation de ce cannibalisme de la domination, d'une planétarisation quasiment théologique en plus, parce que les termes dans lesquels est rédigé l'épitaphe du commandant mort est tellement messianique qu'on ne peut pas ne pas immédiatement entendre que cette résurrection et vous serez sauvés, attendez et vous serez sauvés. Bon, on entend là l'espèce de salve de Kafka contre tout messianisme. Et en même temps, avoir écrit la colonie pénitentiaire, c'est déjà en avoir fait un objet hors de soi. Et donc, c'est permettre au lecteur également de savourer sa propre fugue, capacité de sortir du système.
Oui, c'est ça. Donc, on pourrait se demander aussi si, dans cette description comme ça d'un monde plein, comme un œuf plein. Donc, c'est un monde totalitaire, en fait.
Absolument.
C'est une totalité totalitaire.
Tout à fait. C'est comment Anna Arendt s'y intéressait beaucoup.
Oui, exactement. Oui. Mais alors, comment on arrive à penser notre capacité de révolte, de sortie du système, en dehors, justement, d'une récupération de ce système qui est cannibale, donc qui pourrait, en fait, finalement... même se nourrir de ses propres dissidences, de ses propres marges, puisque dans le schéma que nous propose Kafka, tout le monde remplit une fonction qui sert le système, même le touriste, en fait, le spectateur qui vient assister à une exécution, lui aussi, participe.
Ah oui, il n'y échappe pas. Oui. Il va rentrer en métropole puisqu'il monte dans le bateau. Mais il est devenu fou. Il dit qu'il a perdu le Nord, ce qui est très joli. Enfin, voilà.
Mais alors, comment on pense la révolte dans ce cadre-là, dans ce cadre où on a l'impression que rien n'est...
Parce que ce n'est pas sur la scène. C'est pour ça que j'ai évoqué le travail de Matthias Langhoff lorsqu'il a monté la colonie pénitentiaire. Mm-hmm. Au moment des procès de la guerre en Yougoslavie, du génocide... Des Kosovars et des Bosniaques, l'épuration ethnique, enfin toute cette horreur. Mais la destination de ce spectacle, c'est de mettre les spectateurs en situation critique, en situation d'en sortir. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la pièce ne s'arrête que si les spectateurs sont sortis. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que la machine continue de fonctionner sur la scène aussi longtemps qu'il y a des spectateurs dans la salle. C'est-à-dire que si vous voulez que ça s'arrête, il faut que vous sortiez.
D'accord. Donc c'est une œuvre qui rend pas en puissance.
Donc voilà, c'est ça un travail politique. C'est ça un geste politique. Voilà ce que j'appelle une opération, un geste opératoire ou une opération imageante. Elle est scénique, elle est théâtrale, elle est dramatique. Et en même temps, elle s'adresse à un public à qui elle demande de prendre part à un geste, sortir. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui, tout à fait. Mais pour revenir à Kafka, justement, parce que vous l'évoquiez plus ou moins tout à l'heure, il est très courant, lorsqu'on nous parlons de Kafka, de parler de sa vision, on parle souvent de vision prophétique ou de littérature visionnaire. Or, vous, ce que vous soulignez davantage, plutôt que de le prendre comme un auteur fantastique ou une espèce de prophète de malheur, vous dites qu'au contraire, Kafka est un auteur extrêmement réaliste. Enfin, vous en faites un auteur réaliste.
C'est-à-dire que...
Et vous dites, vous dites, il ne voit rien à l'avance, il voit ce qui est là et ne cesse d'être là.
Voilà. C'est-à-dire que il n'est pas en train d'écrire un cauchemar que nous allons partager, il est l'auteur qui nous dit de nous réveiller de ce cauchemar.
Exactement.
Voilà. Oui. Il nous réveille. Oui, il y a un cauchemar, mais ça n'est qu'un cauchemar. Si vous vous réveillez, on peut en sortir. Mm-hmm. Ne vous installez pas dans le cauchemar.
Alors, c'est drôle parce que c'est précisément la formule. Vous savez, il existe déjà une note de lecture de votre ouvrage sur le site Contretemps, qui est signée de Johan Feierberg, que j'avais reçu dans cette émission, et qui me semble très bien résumer ce que vous cherchez à dire, à démontrer sur l'œuvre de Kafka. Il dit « Il faut affronter le cauchemar que livre Kafka, car paradoxalement, on ne lit pas Kafka avant de s'endormir, on lit Kafka avant de se réveiller. »
Exactement.
Ça me semble être...
Parfait.
Résumé assez bien.
C'est même un art du réveil. Un art de la vigilance et un art du réveil. Oui.
Alors, dans le cas de Kafka, peut-être que ce qu'il faudrait rappeler, c'est qu'il s'agit de dire que quand on dit qu'il a été visionnaire, c'est-à-dire qu'il aurait anticipé le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans ces termes-là, ça n'a pas de sens.
Voilà, ça n'a pas de sens.
Mais non, c'est pas Madame Soleil.
Non, mais ce que vous donnez comme explication, mais ce que donne déjà comme explication Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, c'est qu'il faut réinscrire le génocide des Juifs.
Exactement.
Dans la généalogie coloniale.
Ah oui,
en fait.
D'ailleurs, je cite Césaire. Hein,
oui, disant, et vous le citez tout
oui,
à fait.
Que Césaire dit l'Europe est horrifiée par le génocide des Blancs. Quand on a fait à des Blancs ce qu'on faisait à des Africains ou à des colonisés depuis des siècles, depuis le 15e siècle.
Oui, donc c'est pas quelque chose
la
qui arrive
déshumanisation,
comme ça. La déshumanisation est une œuvre progressive.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais un petit peu choquée, mais je n'insiste pas trop, mais c'est sur la façon dont les Israéliens ont reçu les juifs falachas, noirs.
C'est-à-dire
l'inhospitalité, la remise en question. Voilà, et donc, de ce fait, les falachas noirs ont refabriqué de l'identité et du communautarisme pour répondre à cette inhospitalité de leurs propres coreligionnaires. Voilà. Comment des juifs noirs en Israël ?
Et en même temps, ce que vous proposez, et qui est assez, je trouve, original, dans le rapport à l'accueil des migrants, c'est une autre modalité, il me semble, que celle de la seule charité humanitaire, en fait. Vous, ce que vous semblez dire, c'est que... il nous manque quelque chose que les migrants viennent nous apporter.
Tout à fait.
Et que ce n'est pas, comment dire, c'est pas parce qu'on serait d'une générosité et d'une grandeur d'âme et qu'il faudrait ouvrir les frontières. Ce n'est pas au nom de ça, de cette supériorité-là.
Voilà.
C'est même au contraire parce qu'on en a besoin.
Exactement. Je pense que ce que j'appelle l'art de la rencontre, c'est de reconnaître que l'arrivée de tout autre nous apporte ce dont nous manquons. Alors, c'est quelque chose que l'on est tout souvent prêt à accepter, par exemple, dans un rapport amoureux. De penser qu'au fond, la rencontre avec l'être aimé fait que son absence infligerait la plus vive douleur du manque. Mmh. Voilà. Or, moi, je pense que, justement, l'art d'aimer n'est qu'une des modalités de l'art d'accueillir et que il ne s'agit pas, bien sûr, que nous devons l'hospitalité, puisque moi j'appartiens à une association qui s'appelle Le Pérou et qui, à travers Sébastien Thierry, fait tout un travail pour inscrire le devoir d'hospitalité au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, oui, mais il ne s'agit pas simplement d'inscrire cette hospitalité comme un devoir, je dirais, sous un signe quasiment chrétien, de bonté, de charité. Ouais.
Par confort moral,
ou par pure bienveillance, pour ne pas être cruel, etc. Il ne s'agit pas que de ça, il s'agit de reconnaître le rapport d'égalité, c'est-à-dire la rencontre ne peut être constituante des deux côtés que dans un rapport d'égalité. Or, un rapport d'égalité avec quelqu'un qui arrive sans argent, sans abri, sans connaître la langue, etc., donc qui arrive dans une misère et une demande très radicale, peut faire penser que nous, d'abord qu'il attend de nous tout ce que nous avons et qu'il n'a pas, et qu'il nous appartient de donner ou de refuser tout ce que nous avons et qu'il lui manque. Si on se contente de penser l'hospitalité sous ce régime du don sans contre-don, on passe à côté de l'essence même de l'hospitalité, qui est de reconnaître que celui à qui on donne ce dont il a besoin pour vivre et pour survivre, le met dans la situation où nous pouvons recevoir de lui tout ce qu'il nous apporte, car toute personne apporte son histoire, sa présence, sa capacité d'agir, d'aimer, de travailler, de rencontrer, voilà. Donc j'ai fait exprès de citer le cas du film de Jean-Daniel Paulet, L'Ordre, où c'est un lépreux qui est rejeté par la société grecque alors qu'il est guéri. Qui dit « Vous courez à votre catastrophe, c'est vous qui finirez dans les ordures », lui étant refusé, et ça se termine « Supporterez-vous que nous vous aimions ?»
Oui, c'était une très belle lettre.
Donc, justement, est-ce que nous sommes prêts à être aimés par ceux qui arrivent ? Voilà. Ça, c'est la bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner plus que de l'amour, hein ? Oui. C'est quand même le régime d'affect dans lequel le don et le contre-don sont, je dirais, l'hypothèse fondatrice.
Je vous plains. Je dis ça sincèrement. Pour votre indifférence. Un jour, vous deviendrez vous-même du détersif. Et vous habiterez dans les ordures.
Σας λυπούμεθα. Δουλειά σας το λέω. Ζαθροματά δουλειά σας. за телеглафориесис, за топизмесис.
À Spinalonga, on avait peut-être créé une société idéale, humaine. Tu sais, chez nous, on ne mourait jamais seul. On restait des jours et des nuits avec un mourant. Chez vous, on peut mourir seul. Dans un hôpital. C'est affreux.
Je connais l'histoire d'un nommé Lambrakis. On lui avait donné du chien à manger pour qu'il attrape la lèpre.
À Skinia, on dit que pour guérir la lèpre, il faut manger du chien.
Alors j'ai une question qui est d'ordre plutôt terminologique, parce que j'ai été un petit peu perturbée par certaines expressions. Je dirais, par exemple, typiquement, vous parlez d'anciens esclaves. Vous dites, nous ne devons pas l'hospitalité aux anciens esclaves pour seulement réparer l'irréparable, ni pour nous contenter de leur offrir ce dont ils peuvent manquer. Donc c'est précisément ce que vous étiez en train de dire, mais pour recevoir d'eux ce que nous manquons de nous-mêmes. Mais en fait, je m'interrogeais sur anciens esclaves.
Bah, référence assez directe au régime des plantations, hein, c'est-à-dire à l'époque.
Mais donc vous faites référence au, mais là on
à l'esclavage historique.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là vous appelez ainsi les migrants, en fait, c'est ça, les personnes qui
sont les descendants des esclaves, pour certains. Pour certains,
pour certains, oui,
pas
d'accord.
Tous, qui sont des descendants de colonisés,
oui, qui sont,
et
oui.
D'autres des descendants.
Puisque les esclaves ont été déportés, la plupart sont
tout
surtout
à fait, oui.
Aujourd'hui, enfin, les descendants des esclaves sont surtout situés aux États-Unis.
Enfin, oui, beaucoup plus du côté des Caraïbes et de la,
oui, évidemment,
et de la, oui. De l'Amérique latine. Je suis tout à fait d'accord.
Mais du coup, est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler de descendants, bon, de colonisés ou de descendants d'esclaves?
Peut-être
mais...
que j'aurais dû mettre
oui,
les descendants d'esclaves et les descendants des colonisés.
Oui. Oui. Qui oui. Ça me semblait
oui, il n'y a pas que des descendants d'esclaves. Oui. Oui,
en fait, c'est ce que je craignais, c'est que ça puisse être comment dire, interprété comme quelque chose d'un peu offensant, un peu réducteur.
Ben, c'est réducteur historiquement. Donc là, j'aurais dû dire qu'il y avait les descendants... des descendants des colonisés, ou ceux qui sont d'ailleurs encore en torse de domination coloniale, parce que c'est vrai, il y a une situation, mais ce n'était pas le but de mon livre d'aborder cela,
oui.
C'est la situation des populations de subsahariennes, donc des Noirs, des Africains noirs, qui... Ce sont des pays qui ont nourri le marché, enfin traite, la traite des Noirs. Donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison de repérer ça, parce que ça peut effectivement prêter à gêner, gêner. Parce que c'est les descendants des colonisés, c'est les descendants des esclaves. Et c'est vrai qu'actuellement, l'émigration vient plutôt des pays qui ont été colonisés que des pays... Mais pour moi, il y a une prolétarisation, je ne l'ai pas analysée, mais j'aurais pu... Une prolétarisation, malgré tout, de la population caribéenne dans les pays européens, si l'on regarde les fonctions occupées, dans la société, en tous les cas française, c'est clair, et ailleurs aussi, les fonctions occupées par ceux qui quittent la Martinique, la Guadeloupe, les pays d'Amérique latine, pour trouver un avenir plus vivable dans les pays occidentaux, particulièrement en France, pas seulement, et qu'ils appartiennent plutôt à des classes défavorisées et à un prolétariat.
Mmh.
Voilà. Donc oui, vous avez raison.
Non, mais voilà, c'est parce qu'il y a des catégories que j'avais du mal à comprendre. Il y a aussi juste encore une dernière chose aussi, parce que c'est vraiment des questions que je me suis posées, parce que, alors, vous employez, par exemple, le mot, alors, je sais, entre guillemets, le mot nègre, mais vous l'employez sans guillemets, mais évidemment, dans le cadre, je sais bien, c'est une distanciation que vous prenez, et dans le cadre d'un rapport, d'une analyse critique de la figure du noir.
Tout à fait, un peu comme Rimbaud utilise le mot nègre.
Oui, voilà, c'est ça. Mais sauf que vous en faites, du coup, un terme générique. Et je me demandais si ça ne méritait pas tout de même, quand même, par précaution, un avant-propos ou quelque chose comme un lexique pour expliquer que... Parce que vous savez bien que aujourd'hui il est très difficile d'employer ce mot sans guillemets... quand on n'est soi-même pas noir.
Encore, vous savez, à mon avis.
Et sans doute à raison.
Si vous allez dans les galeries, la notion d'art nègre.
Oui, mais je me pose. Je me demande.
Est restée, pour l'instant. L'instant.
Mais justement, je me demande s'il faut.
Salles de vente, art nègre.
Mais je me demande si ce n'est pas quelque chose dont il faudrait se scandaliser, en fait.
Alors, c'est vrai que j'aurais pu m'y arrêter en disant qu'il y avait toujours un usage du mot nègre dans le milieu culturel, particulièrement, qui semble s'innocenter, en tous les cas.
Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui est tellement chargé historiquement qu'on ne peut pas en faire un mot générique. On ne peut pas en le sortir sans précaution, sans se dire « bon, bah, tout le monde a compris que c'est… »
Quand Rimbaud s'en saisit, alors là, c'est carrément pour…
poétique aussi.
Sauvagement, sauvagement, c'est de dire…
Et puis en plus, c'est pour s'en revendiquer, c'est-à-dire que
absolument,
c'est pour dire « je suis nègre ».
Exactement, oui. C'est encore… Et un peu aussi, pour ça, la façon dont Baldwin utilise le mot « négro ».
Ah oui, mais ça, après, évidemment, les Noirs eux-mêmes, si vous voulez, sont autorisés à l'utiliser, puisque,
ils
peuvent retourner le stigmate, mais c'est les seuls qui sont en capacité de retourner le stigmate contre lui-même.
C'est pas que ce soit les seuls, mais qu'il est bon que, noir ou pas noir, et particulièrement si on est blanc et qu'on utilise le mot, de le recontextualiser.
Au moins par précaution.
Oui, pour pas être dans le black word, comme il y a le blackface.
alors, justement, vous me permettez de faire une transition, puisque à l'appui donc d'une citation de James Baldwin qui évoque son ami Ava Gardner, James Baldwin, qui semble regretter que son amie Ava Gardner, qui est blanche, ne puisse pas incarner au cinéma Billie Holiday, qui est noire, parce que le monde n'est pas prêt.
Voilà.
Vous dites, on entend là comme un écho direct de certains débats actuels souffrant de cette schizophrénie raciale qui aujourd'hui ne permettrait pas davantage à Ava Gardner d'incarner Billie Holiday. Si un acteur ou une actrice ne peuvent plus jouer ce qu'elle ou il n'est pas dans la réalité, c'est l'acte de décès de la fiction, la négation du sceau que l'art doit accomplir pour préserver sa liberté et assurer sa résistance au réel. Alors, quand vous parlez de certains débats actuels, est-ce que cela signifie que vous n'adhérez pas, je suppose que vous parlez des combats de certains militants noirs, notamment pour faire interdire la pratique du blackface dans le cadre...
Oui, parce qu'il y a des moments où, effectivement, le blackface a suffisamment d'ambiguïté ou suffisamment d'univocité pour qu'on dise « non, ça, on ne peut pas ». Il y a d'autres cas, entre autres... Par exemple, ce qui s'est passé pour la pièce d'Eschyle, pour les Perses d'Eschyle à la Sorbonne, où là, on se dit, ça ne va pas. Enfin, pour moi, ça ne va pas.
Pourquoi ?
Ça ne va pas parce que c'était un masque, et que l'art du masque, ça fait partie du théâtre, et qu'il faut qu'on puisse mettre n'importe quel masque.
Il m'avait semblé que c'était un masque dans un second temps, mais qu'il était d'abord question d'une
couleur. C'était des masques. Oui. C'était... Le théâtre grec est un théâtre de masques. Oui, c'était des masques. C'est vrai que je pense qu'on peut être noir et jouer Célimène dans Molière. Ça ne me pose aucun problème.
Mais alors, du coup, quand vous voyez que des militants, que des personnes, des artistes, des militants, et même parfois pas des militants, mais en tout cas que les personnes noires s'insurgent contre cela et s'organisent et luttent, qu'est-ce que vous leur répondez? Je veux dire, concrètement, c'est difficile de leur dire que c'est parce qu'ils n'ont pas saisi ce qu'était une œuvre d'art.
Là-dessus, c'est clair. Il se trouve que je participe, hein, à un organisme de la Ligue des droits de l'homme qui s'appelle l'Observatoire de la liberté de création. La personne qui dirige avec talent et immense liberté et sa expertise est une avocate qui s'appelle Agnès Tricouard. Ce groupe se réunit quasiment tous les mois ou presque pour analyser chaque cas individuellement dans les revendications des communautés noires ou des groupes noirs ou LGBT ou LGBT noirs, enfin bref, toutes les combinaisons possibles concernant les minorités et les réelles souffrances de ces minorités font que cet organisme, hein, de l'Observatoire des libertés de création, s'intéresse à l'œuvre, hein, aux œuvres d'art, c'est-à-dire de savoir ce qui, dans un geste d'art, relève véritablement d'une fiction et donc d'une totale liberté, d'une absolue liberté inconditionnelle dans la création, c'est-à-dire sans regard, à partir du moment où il y a reconnaissance de la dimension fictionnelle du geste. Dès qu'il y a un soupçon possible ou que c'est clairement en deçà de la fiction que se joue l'abus des signes, des mots et des images portant atteinte à la dignité d'une communauté, Agnès Tricouard, en tant qu'avocate, se saisit du dossier et propose d'aller plaider en faveur des groupes oppressés. Mais elle fera la même démarche pour défendre un artiste dont l'œuvre est marquée d'une dimension fictionnelle suffisamment avérée pour ne pas prêter à confusion. Et je fais partie de ce groupe, c'est-à-dire que je témoigne de ce que la loi, maintenant, c'est inscrit dans la loi, que la liberté de création est inentamable et inconditionnelle.
Alors, je comprends. Mais là, du coup, vous situez le débat dans un cadre plutôt légaliste, alors qu'il me
juridique.
Semble... Oui, et juridique.
Tout à fait.
Mais alors qu'il me semble qu'on pourrait voir les choses autrement dans la manière dont les polémiques éclatent. C'est-à-dire que je ne crois pas vraiment... Je ne crois pas que l'ambition absolue et recherchée de ces personnes, de ces militants, soit d'interdire les œuvres et de faire censure. Il me semble qu'au contraire, ce dont il est question, c'est d'interroger, d'ouvrir un débat sur la question des représentations.
Ouvre le débat, nous serons toujours, et je serai toujours d'accord pour ouvrir le débat.
Oui, mais pour ouvrir le débat, malheureusement, il semblerait qu'il faille passer par des situations extrêmes. Si j'entends la défense de ces personnes-là, ce que j'entends, c'est que nous n'avons pas le choix que d'aller aussi loin pour faire entendre notre voix qui est complètement silencié dans d'autres cas.
Pourquoi ils n'ont pas le choix?
Parce que les personnes issues des minorités n'ont pas le même accès à la parole, le même accès à la parole publique, à la production.
Je vais vous donner un exemple avec Exhibit B. Hein. De toute façon, maintenant, l'Observatoire a édité un livre qu'il faut absolument que tout le monde lise, hein, qui est donc le guide du censeur et du censuré. Donc là, on analyse les cas. Un groupe d'experts de cet observatoire a fait un ouvrage maintenant qui va être un ouvrage de référence, qui sort maintenant, et qui est le guide du censeur et du censuré. On analyse les cas, 13 cas, présumés innocents, etc. Exhibit B. Parlons d'Exhibit B. Il y a eu deux étapes. Vous l'avez peut-être vu.
Oui. Exhibit B, peut-être qu'il faudrait rappeler ce que c'était. Donc c'était un dispositif.
C'était un dispositif, je dirais, scénique, enfin une performance, où des personnes noires volontaires ont accepté de figurer dans un espace compartimenté, différentes scènes et différentes étapes et différentes situations relevant de la violence coloniale. Et l'auteur, Bellé, est d'Afrique du Sud, un blanc d'Afrique du Sud. Alors déjà, au scandale, un blanc d'Afrique du Sud se permet de traiter du problème de l'apartheid et de l'esclavage. Bon, soit. Première étape, au théâtre Gérard Philippe, les groupes qui se considèrent comme atteints dans leur dignité, leurs droits et leurs libertés par la seule existence de ce geste artistique, empêchent l'exposition d'avoir lieu, cassent les portes du théâtre, eux ont fait appel à la police, bon, bref. Oui. On est obligé de déplacer l'exposition et elle se remet en place au 104 avec des colonnes de CRS pour empêcher qu'on le détruise et qu'on le censure. Et l'Observatoire de la création crée sur place un lieu de débat en disant... Tous ceux qui acceptent de venir voir, ne pas condamner sans avoir vu. Déjà, la règle, ne pas condamner sans avoir vu. Bon. Donc, tous ceux qui acceptent de venir voir pour déclarer clairement que cela les scandalise, les offusque ou les blesse, qu'ils viennent effectivement à la sortie et nous souhaitons partager un débat, une problématique, pour partager les raisons de souffrir, d'accepter, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Bon. Au contraire, ce que vous venez de dire, j'y souscris totalement, il faut débattre. Si nous ne partageons pas un espace de parole et de conflit, pour le conflit, je veux dire, pour moi, la zone est une zone de conflit. Ce n'est pas une zone irénique, c'est une zone où ceux qui sont en conflit.
Mais là, concrètement, ce que vous nous avez décrit, et c'était ça, moi, qui m'avait frappée aussi, c'était de voir, effectivement, une espèce de rang de CRS avec toutes les personnes noires interdites, parce qu'elles étaient offusquées, parce qu'elles se sont organisées, parce qu'elles ont dit « on veut que vous nous entendiez ». Des personnes qui, par ailleurs, sont complètement dépossédées de leur image, qui n'ont pas accès, encore une fois, à la production culturelle et artistique de la même façon qu'un blanc.
Il y a des classes entières qui sont venues, il y avait des gens de toutes les couleurs.
Oui, mais enfin, ça reste quand même... Et d'ailleurs, vous êtes la première à le dire, le monde de l'art est quand même homogène du point de vue de la couleur.
Mais c'est un combat à mener ensemble.
Exactement. Mais moi, il me semble que ça, c'est précisément l'expression d'un des combats. Et que c'est aussi une façon de faire redescendre l'art dans la rue. Quoi. Parce que quand vous dites, oui, mais nous, on a un collège d'experts qui... Mais précisément, c'est une façon de se dire, mais non, stop.
C'est pas un collège d'experts. Oui. C'est la Ligue des droits de l'homme.
Nous aussi, on a des choses à dire sur l'art, en fait. C'est ça
qu'il faut entendre. La Ligue des droits de l'homme n'est pas un collège d'experts. C'est un rassemblement de gens qui viennent d'horizons très différents. À l'Observatoire, il y a des gens extrêmement différents, mais vraiment venant d'horizons très différents, de classes sociales très différentes, et qui ne sont pas du tout des intellectuels, des experts, etc. Moi, je suis philosophe, d'accord, mais il y a des gens qui sont des artistes qui viennent, il y a des gens LGBT, il y a des gens qui viennent de partout. Mais on débat ensemble, on se réunit dans des débats contradictoires, vraiment contradictoires, jusqu'à voir à quel moment on va pouvoir ajuster, et c'est un art, comme je viens de l'expliquer, l'ajustement est un art, de comment ajuster à la fois les sensibilités en préservant la légitimité d'une souffrance et d'une demande de justice, et en préservant en même temps la liberté totale de celui qui invente et crée. Parce que, à ce moment-là, si vous voulez, même la nouvelle de Kafka est scandaleuse.
Pourquoi ?
Dans la mesure où... À quel titre un petit juif blanc qui n'a jamais quitté l'Allemagne a-t-il le droit de raconter ce qui se passe dans une colonie africaine ?
Oh, oui. Alors, oui, mais moi...
Il n'a jamais mis les pieds en Amérique et il raconte non, ce qui se passe en
pas
Amérique.
Ce qui est en jeu là, dans ce qu'on appelle l'offuscation, mais qui n'est pas une... C'est-à-dire que c'est une analyse qui est d'automner, qui est de dire, dans une position de puisque les Blancs sont déjà dans une position de domination, ils ont déjà, eux, accès à tous les instruments de la production... Pour une fois qu'il est question de la question noire, est-il possible d'entendre aussi ceux qui ont, alors, ceux qui ont à voir
là,
avec...
Voilà, là, vous pas... oubliez un des arguments sur lesquels nous avons démarré notre dialogue, ouais. À savoir que la position bourgeoise, blanche, classe supérieure, est loin d'être partagée par tous, et que si je dis que la machine... à broyer le colonisateur, c'est qu'il y a toute une population blanche qui participe d'une histoire prolétarienne, d'une histoire misérable,
évidemment,
dans les colonies et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et à travers le monde. Et donc, il ne faut pas que le mot « blanc » devienne le synonyme de « dominateur ». Ils sont dominés aussi, et il y a des dominés.
Oui, évidemment, mais il y a tout de même un rapport, on va dire, un rapport...
Historique.
Oui, un rapport historique qui a fondé, malgré tout, des privilèges en fonction de notre appartenance à tel ou tel. Bon, et évidemment que cette question, elle est traversée par d'autres problèmes qui sont des problèmes liés à la classe sociale.
Tout à
et
fait.
Puis encore, voilà, tout à d'autres... Et évidemment qu'il faut affiner encore et que c'est pas aussi grotesque que cela. Mais voilà, mais moi, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction entre, en théorie, dire qu'il faut absolument décoloniser l'imaginaire, décoloniser le monde de l'art... avec l'aide de celles et ceux qui sont victimes prioritairement du racisme, et que lorsque ceux-ci, concrètement, dans la vie, s'organisent, luttent, montrent qu'ils sont là et qu'ils ont des revendications, dire « Ah ben non, mais là, par contre, on n'est pas d'accord. »
Non, je les soutiens pleinement. Croyez bien que, par exemple, ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme qui a demandé qu'il y ait des CRS au 104. Je veux dire, c'est...
Oui, parce que ça, c'est un spectacle d'une violence inouïe de voir ça.
C'est l'administration policière de l'ordre. C'est-à-dire, on considère qu'il y a un trouble dans l'ordre public. Or, pour nous, un conflit d'opinion n'est pas un trouble dans l'ordre public, c'est au contraire le signe d'un partage démocratique de la pensée. Mm-hmm. Voilà.
D'accord.
Voilà, c'est la Ligue des droits de l'homme n'a jamais demandé qu'il y ait des CRS pour... Au contraire, on ne demandait qu'une chose, c'était qu'on puisse se retrouver et réfléchir ensemble à ce qui était de l'ordre de l'abus, de l'ordre de la liberté, la façon de réagir aux sensibilités, etc. Voilà. Il y a des formes de dénonciation des dénonciations de l'esclavage qui, moi, me choquent infiniment, parce qu'elles réitèrent, elles renouvellent et réitèrent la fascination du blanc pour sa propre domination. Je ne citerai personne, mais j'en ai vu récemment au musée de l'émigration, quand il y a eu les 3 jours de réflexion. Il y a eu des choses qui m'ont énormément choquée, parce qu'au lieu d'être un lieu de partage sur des questions, il y a des gens qui arrivent avec des réponses toutes faites et des étiquetages. Voilà. La mémoire, c'est ça qui est beau dans le travail de Hans Stoller, et qui est un travail féminin. Et je pense qu'en tant que femme, comme elle, je suis très sensible au fait que les rapports entre les sexes sont partie prenante dans la question coloniale, et que c'est pas pour rien qu'elle est une femme, ni que moi je suis aussi une femme. C'est que la façon dont dont les dominations s'inscrivent dans la chair et le rapport entre les sexes, on ne dit pas assez à quel point la question coloniale est liée à une, je dirais, pour reprendre un vieux mot, est phallocratique. Mm-hmm. Elle est phallocratique.
Oui, on n'a pas parlé de ça,
mais c'est capital. C'est capital. C'est que la domination coloniale est une domination paternaliste, virile, mm-hmm. masculine, phallocratique, comme on disait dans des époques autres, ou qu'on peut dire encore. Et que là, il faut. Moi, ça m'ennuie. Ça m'ennuie toujours. Bon, vous voyez, il se trouve que j'ai travaillé un petit peu à la PJJ, hein, avec des gens dits radicalisés. Bon, ben, je peux vous dire que dans ce milieu radicalisé, la domination des hommes, c'était essentiellement des populations maghrébines, surtout africaines, hein, des jeunes gens mineurs. Mm-hmm. Voilà. La domination des hommes sur les femmes, dans le monde même de la délinquance, c'était stupéfiant. Mm-hmm. Stupéfiant. Et il y avait des jeunes femmes qui étaient capables, dans l'espace public, de faire des incongruités et des actes de commettre des délits tout à fait, je dirais, courageusement violents et qui les a mis dans cette situation détestable d'être à la PJJ, malgré tout, avec des petits bracelets, etc. Mais qui, par rapport à leurs copains...
Oui, mais alors ça, c'est un oui. rapport qu'on retrouve à toutes les,
ah, oui,
mais... à toutes les échelles, en fait.
Oui, niveau, mais... Oui.
Peut-être pour des raisons différentes.
Pour des raisons différentes, mais pour moi, c'est un enjeu inséparable. Mm. C'est-à-dire que j'attends beaucoup... de la prise de conscience par les femmes des pays colonisés, anciennement colonisés, et des pays colonisateurs, de se saisir ensemble du problème de la domination, si on veut que, transformer le regard que l'on a à la fois sur l'intime et sur l'espace public.
Bien sûr.
Ah ben oui.
Alors, on n'aura pas le temps, évidemment, de l'aborder sous cet angle.
J'en parle, hein.
Oui, vous en parlez, effectivement. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, il se trouve que, effectivement, les femmes des pays colonisateurs, jusqu'alors, il y a beaucoup de travaux. Le problème, c'est que même lorsqu'elles ont lutté pour leur émancipation en tant que femmes, elles l'ont fait aussi parfois au détriment des femmes des pays colonisés. Que... Donc, je veux dire, c'est une solidarité qui est loin
d'être... Parce que pour moi, le combat des femmes...
d'être naturel.
Le combat des femmes n'est pas un combat pour avoir le pouvoir.
Oui, bien sûr, mais bon, oui. Mais je veux dire, l'universel féminin, il est à construire encore. C'est-à-dire, il n'est pas du tout...
Oui,
puisqu'il est traversé par d'autres rapports de domination, en fait, c'est ça que je veux dire. Et notamment le rapport.
C'est pour ça que je fais appel à cette énergie-là, mais précisément pour la distinguer de tous ces cas de femmes tout à fait remarquables qui occupent l'espace administratif, académique, qu'importe, enfin, qui occupent les espaces de pouvoir et de décision, en se moquant tranquillement de tout ce qui arrive.
Oui, voilà.
Oui, mais ce ne sont pas mes alliés, celles-là.
Très bien. Eh bien, on arrive au terme de cette émission.
Je vous remercie beaucoup
de la lecture. Moi,
lecture. Et puis, à travers vos questions, de m'avoir... vous auriez dû le faire plus, pas m'avoir assez critiqué pour, justement, que je puisse affiner ou éviter certains...
Mais je vous remercie d'avoir reçu mes remarques, de les avoir reçues avec autant de...
C'est précieux, parce que ça permet de voir, oui, qu'il faut faire très attention, quoi. Oui, merci.
Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Dans le texte. À bientôt.